Il n'avait jamais été dans mes intentions de mourir jusqu'à ce jour de juin 2014 où la maladie se pointa en invité surprise et se précipita sur moi. Sur le coup, je ne ressentis rien, ne pensais rien, n'exprimais rien. Puis je coulais dans le chagrin en essayant de m'agripper à ces murs verticaux. Puis je sombrais dans une sorte d'hébétude. Puis je gisais dans une morne léthargie. Puis j'y stagnais. Longtemps. Vivre en Provence était un vieux rêve d'enfance que la maladie m'avait permis d'exaucer. Et lorsque le médecin m'apprit que mes soins pouvaient m'être dispensés dans la ville de Barogne, l'idée me vint de m'installer dans un village proche. J'y habitais depuis 8 jours, j'espérais m'y faire une place. J'étais sans doute trop jeune pour avoir cette expérience des grands voyageurs qui savent immédiatement ce qu'il convient de dire pour se faire accepter des natifs, mais je ne désespérais pas d'apprendre et j'en avais l'âpre, la tenace, l'impérieuse volonté. J'avais ce sentiment que si ma vie devait être brève, je la voulais sinon heureuse, je savais confusément que je ne parviendrais jamais au bonheur, tout du moins adouci.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
C'est exactement cela. Un jour, la maladie fond sur vous ou sur ce que vous avez de plus cher au monde et on sombre. Bien sûr, on a entendu parler d'hommes et de femmes qui, apprenant que les jours sont désormais comptés, en profitent pour réaliser 1000 rêves, faire le tour du monde en voilier, grimper l'Everest, devenir un saint ou écrire un livre admirable. En réalité, la plupart du temps, on sombre. Et même si par un sursaut d'orgueil, on tente de faire bonne figure à l'extérieur, à l'intérieur, tout est noir et chaotique, au point de se surprendre à prier sans savoir toutefois à qui adresser ses suppliques. Ouvrir un nouveau livre de Lydie Salvert, c'est comme se réveiller la nuit et sentir la terre trembler. Autour de vous, tout bouge et gronde, et pourtant, on ne s'est jamais senti plus vivant. Elle ne prend pas de gants avec nous, Lydie Salvert. Elle cogne, elle secoue, elle nous jette ses mots au visage, et puis d'une caresse, d'une phrase douce comme du miel, elle nous apaise et nous réconforte. Son dernier roman, paru au Seuil, intitulé « Tout homme est une nuit », raconte la violence de meute que va subir un étranger de passage dans un paisible village français. Violence banale, quotidienne, sans rien qui puisse faire les gros titres, mais avilissante pour tous. Notre vie, en somme. Bonsoir Lydie Salvert.
Bonsoir.
Ce livre-ci, comme les précédents, traite de la question de c'est quoi un étranger ?
Oui.
Un étranger à soi-même, quand on ne comprend plus ce qui nous arrive pour une cause, un chagrin, une maladie, une douleur. Un étranger pour les autres, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, avec la religion. Mmh. On est toujours l'étranger de quelqu'un.
Oui. Mais mon histoire familiale m'a rendue particulièrement sensible à cette question de l'étranger. Et comme vous le dites, on peut être étranger parce qu'on est fou. On peut être étranger simplement parce qu'on ne connaît pas les codes sociaux. On peut être étranger avec une maladie étrangère, un corps étranger en vous. Je peux même aller jusqu'à dire que chacun porte un étranger en lui à certains moments de sa vie. Et à certains moments du jour.
Mais en fait, ce personnage qui débarque comme ça un jour dans un petit village charmant, un village de cartes postales où tout doit être idyllique, lui aussi, il a fantasmé cette autre part.
Oui.
Il s'est dit que s'il changeait d'endroit, il deviendrait plus heureux, plus épanoui,
oui.
Il guérirait. Donc, au fond, on a aussi en soi ce besoin de se dire qu'ailleurs l'herbe est plus verte.
Il aspire à ce lieu de beauté, de lumière pour finir ses jours. Or, c'est un village, comme il y en a tant en France, c'est un village qui se meurt. C'est un village qui est déserté par une partie de l'industrie et de ses habitants. Et c'est un village dans lequel les villageois qui restent ont le sentiment d'être les derniers représentants d'un monde qui meurt. Et qui se sentent aussi oubliés, relégués, délaissés par les riches, par les puissants, par l'élite qui, eux, habitent la ville, qui, eux, ont du pouvoir, etc. Donc, je voulais bien dire aussi cet abîme qu'il y a entre les lieux dont l'on rêve lorsqu'on est malade et qu'on veut finir sa vie en beauté. Est-ce qu'il en est vraiment de ces petits villages de France qui sont en voie de perdition, c'est peut-être un grand mot, mais qui se meurent doucement? Et ce qui va expliquer probablement l'accueil que lui font les villageois, qui sont mus par un immense ressentiment, par un dépit, par un désenchantement, par une résignation, une colère résignée. J'espère que ça va expliquer en partie leur rejet de l'autre, parce que cet homme n'est pas si différent qu'eux. Il est presque comme eux, mais presque. Il est solitaire. Il transporte avec lui les pratiques de la ville. En ville, on sépare le public et le privé. On ne va pas spontanément vers les autres. Il est aussi dans cette idée que pour retrouver je ne sais quelle authenticité, il faut se mettre en retrait. Il faut se délier, il faut se défaire des autres, ce qui est à mon avis une sottise. Et ce qui explique aussi pourquoi il est perçu comme un intrus par les gens du village.
Mais ce personnage que vous avez créé dans votre dernier livre, Tout homme est une nuit, Lydie Salvert, c'est un homme, on ne sait pas trop d'ailleurs d'où il vient, enfin c'est un fils d'immigré à l'évidence, il est atteint d'une maladie, donc il s'éloigne, il quitte sa compagne, il rompt tous les liens qui l'attachaient au passé, comme si justement une nouvelle vie était le médicament le plus sûr. Oui. Les sentiments qui l'agitent, est-ce que du coup là vous lui avez donné vos propres réactions face justement à cette histoire qu'il trimballe, à cette épreuve de la maladie? Est-ce qu'au départ ce livre vous l'avez écrit justement comme une thérapie pour vous?
Non, je ne dirais pas ça, même si j'étais très heureuse que le goût d'écrire et de lire me revienne, parce que justement après la maladie, ce goût-là a disparu. Et pendant un an, c'était l'assèchement, la boue noire, le désert au fond de moi, je ne sais pas comment le dire pour pas paraître emphatique. Et puis un jour le désir revient, la colère revient au moment de la campagne des élections présidentielles, où il ne se passe pas un jour sans que je n'entende une bassesse, une invective, une mise au pilori, puis des sondages qui nous redisent tous les jours que les populismes ici et ailleurs augmentent. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, et je n'ai aucune envie ni aucun désir de poursuivre mes petites affaires militaires. Militaire.
Oui, joli lapsus. Joli lapsus.
Quelle horreur.
Mais
mes petites affaires militaires, littéraires.
Vos affaires militaires, vous aviez un combat à mener.
Mais sans doute.
Voilà,
sans
c'est, doute. C'est de là c'est que
drôle,
ça vient.
C'est
oui,
drôle.
Oui.
Du coup, j'en suis troublée. Bref, j'avais l'impression que je ne pouvais pas me dérober à cette affaire qui me regardait. Et que je devais en dire quelque chose, que je devais, je ne sais pas si c'est le terme « devais ». En tout cas, j'avais une intimation, la colère m'intimait à écrire. Toutes ces questions que je me posais, et entre autres, celle de savoir pourquoi les hommes se fabriquent à bon compte un ennemi, pourquoi, plutôt que de s'en prendre aux causes de leur douleur. Et cette question, c'est converti en cette fiction dont nous parlons aujourd'hui.
Effectivement, Lydie Salvert, ce livre, il est plein de colère. Il y a deux sortes d'écriture dans le livre. Il y a l'écriture de l'étranger. On voit bien que c'est un intellectuel, il est professeur. Il aime pratiquer un beau français. Et puis, il y a le langage parlé des Français bien de chez eux, qui sont chez eux et qui ne supportent pas qu'un étranger vienne les déranger. On va écouter une première lecture de votre livre. C'est dans ce fameux café où se passe le complot des natifs contre l'étranger. Un certain Dédé prend la parole.
Une chose préoccupait Dédé en cette fin de journée. Une chose difficile à cerner, surprenante, et qu'il n'avait jamais eu jusqu'ici à mettre en mots, ni jamais éprouvée. Une chose qui le prenait complètement au dépourvu, et pour laquelle il ne disposait d'aucun critère, mais qui finit au troisième vers par s'esquisser puis lui apparaître. La présence toute nouvelle de l'étranger dans le village. Que n'y avait-il songé avant ? Cette présence venait en effet déranger son monde intérieur où tout était méticuleusement rangé, comme sa vie, quoi qu'en dit son épouse, au point qu'il ne parvenait plus à en détacher son esprit de cette intrusion dérangeante. C'est un peu, expliqua-t-il dans une métaphore musicale fort appréciée de l'auditoire, c'est un peu comme si, au milieu d'un concert dont on connaît par cœur toute la mélodie, surgissait un couac, ou un crissement incongru, ou une sifflante sonnerie qui venait brutalement écorcher nos trop tendres et trop susceptibles tympans. « Ça incommode forcément, dit Dédé. C'est un attentat à la quiétude, dit Émile, tout fier de sa formule. Et c'est extrêmement déplaisant. » Car Émile, assis à la même table devant son verre de blanc, était dans des dispositions tout à fait analogues. Certes, l'étranger n'était ni un nègre, ni un indien dont les teintes foncées agressent le regard, c'est bien connu. Cependant, il ne se fondait pas dans le décor. Il détonnait, il faisait tache, il tranchait, comme on le dit, d'une couleur criarde. On se demandait si on avait la berlue. On faisait en sorte de ne pas le voir, on s'ingéniait à l'éviter, on regardait le ciel, on regardait n'importe quoi qui ne serait pas lui, mais il vous sautait aux yeux où que ceux-ci se posassent et de la plus méchante façon. C'est pas qu'on soit... comment dire, dit Émile. Contre les étrangers, souffla Étienne. Mais le fait est que ce type vous attaque les pupilles, dit Émile. C'est d'un pénible. L'arrivée de l'étranger déconcertait leurs habitudes, et pas seulement les rétiniennes. Toutes leurs habitudes et le doux engourdissement qu'elles conféraient et dont ils étaient douillettement captifs. Toutes leurs habitudes, dont l'emprise sournoise augmentait, semblait-il, avec l'âge, à la même allure que leur incuriosité. Elle les délogeait de leurs routines et radotages dans lesquels ils s'assoupissaient. Car même les fâcheries conjugales, dont ils feignaient journellement de se plaindre, ils s'en arrangeaient et dans le fond s'y complaisaient. À vrai dire, elle les berçait. Reposant tritournelle où la méchanceté faisait son nid et s'endormait. Elle les délogeait, disions-nous. Et ce délogement était des plus contrariants.
Lydie Salvert, on vient d'entendre le début de ce complot qui va se fomenter au café du village contre cet étranger. Et on sent bien que déjà, et c'est le début du livre, il y a une recherche d'exutoire dans cette colère qui est là, qui n'a pas de mots. On est en pleine campagne présidentielle, on entend des choses. Eh ben oui, c'est bien sûr, puisqu'on ne peut pas s'attaquer aux puissants, aux industriels qui sont partis, aux politiques qui ne viennent pas, il n'y a pas de solution, on va chercher, c'est la vieille théorie du bouc émissaire.
Oui, c'est une théorie vieille comme le monde. On focalise ses douleurs, son mécontentement, ses colères sur un autre, qui doit avoir certaines caractéristiques, sans doute, pour être regardé comme un bouc émissaire. Il doit être un peu différent, il doit être dans une position enviable, éventuellement, ou très effroyable, ou l'un ou l'autre.
Mais cet homme ne travaille pas, donc il est supposé être à la charge des habitants du village.
Et en même temps, c'est désirable de ne pas travailler. Et on ne l'a pas signalé, mais il a un type méditerranéen, puisqu'il est espagnol, avec un prénom andalou. Donc tous ces éléments convergent vers une figure qui attire, en tout cas sur laquelle on projette tout ce qui ne va pas.
Mais en même temps, quand on revient aux discussions de la campagne, de la dernière campagne, où il y avait sans arrêt des références à l'histoire de la France, à la culture française, menacée par l'extérieur, dans le choix des écritures que vous avez eues, parce que je dis des écritures parce qu'il y en a vraiment deux dans le livre, en fait c'est l'étranger qui est le dépositaire de la culture classique, il choisit ses mots, il aime le français châtié, il a lu des livres, il en a chez lui dans sa petite chambre, et puis du côté des habitants et des habitués du café, il y a au contraire un vomissement permanent des à peu près, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils emploient des grands mots mais personne ne comprend, après ils reviennent à un langage très vulgaire. Donc mais en fait, voilà, sur cette
mais
question...
Mais je ne voulais pas, comment dire, stigmatiser les buveurs du café. Je serais malheureuse qu'on le lise comme ça. Ils sont victimes eux-mêmes, et je le signale à un moment, victimes de la manipulation, de leur peur que pratiquent certains partis politiques. Parce que je crois que la solution facile, c'était de décrire un narrateur qui serait bon, victime, etc. Et de l'autre, des clients d'un café qui soient méchants, fascistes, etc. Je voulais que ça soit bien plus complexe. Je voulais que petit à petit, mais je crois qu'on le comprend surtout dans la deuxième partie, on voit dans quelle faille, quelle blessure aussi ont ces gens du café et pourquoi ils s'expriment en ces termes. Bien sûr parce qu'ils n'ont pas l'accès au savoir. Bien sûr parce qu'ils cherchent à faire front commun devant l'autre. Alors l'autre, qui est la finance, qui est cet étranger-là, qui est l'élite. Non pas que je leur trouve des excuses, mais je craindrais qu'on ne lise dans ce qu'ils peuvent émettre dans ce café une étiquette infamante. Je ne le voulais à aucun prix. Ils parlent comme on parle dans les cafés les plus ordinaires et...
D'autant que l'étranger, vous ne l'avez pas rendu spéallement sympathique, non, parce que en fait, il est. Alors, il le dit lui-même, c'est une vieille habitude pour lui d'avoir le front modeste et la bouche idem. C'est-à-dire qu'en fait, il a tendance, au lieu de se révolter quand on le jette dehors du café ou quand il entend des réflexions, au lieu d'affronter de s'expliquer, de trouver les mots pour parler, lui aussi, il fuit, il s'en va de l'autre côté. Donc, c'est pas non plus une attitude très.
Bien sûr,
très
le livre est un non-dialogue. Absolu, je pense, entre lui et les gens du café. Et ce non-dialogue va se rompre un peu, j'espère, avec l'arrivée d'Augustin dans le livre qui m'a fait tellement de bien.
Il y a une deuxième partie où on comprend mieux.
Oui.
Seven trees barren strange fruit. Blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit. Hanging from the poplar trees, pastoral scene of the gallant South, them big bulging eyes. And the twisted mouth, scent of magnolia, clean and fresh, then the sudden smell of burning. Here is a fruit for the crows to pluck. For the rain together, for the wind to suck. For the sun to rot. For the
la colère montait au café des sports. Chaque jour, la colère montait. La dire ne suffisait plus à l'apaiser. On avait même l'impression que la dire l'augmentait. Du reste, on y prenait goût à la colère au café des sports. On y trouvait presque une forme de plaisir. On s'en grisait, car en secouant les esprits, la colère les désencombrait du même coup des petits soucis étriqués et médiocres, des petits tracas galeux qui d'ordinaire s'y entassaient, certains depuis des lustres, c'est dire la poussière. Elle était comme un vent fort qui arrache les branches mortes et renverse les murs branlants. Une bienfaisante bourrasque qui cinglait les esprits, les mordait, les décrassait, les revitalisait. Et tant pis si elle écrasait les subtilités et les nuances. Tant pis si elle brouillait ou obscurcissait le jugement critique. Qui servait à quoi, je vous le demande? À compliquer les choses. Et parfois, vaut mieux pas. La colère dramatisait la vie, qui retrouvait enfin sa vivante pulsation. Elle la lestait, cette vie si volatile, si fuyante. Elle lui donnait un poids, une cause, un projet, une ardeur. Alors, on la cultivait, on l'épissait, et on la faisait longuement mijoter.
Est-ce que tu fous ?
Puis on la dégustait, à petite bouchée d'abord, puis à grosse lampée, puis à très grosse. On s'en pourléchait, on s'en empiffrait, et tout le reste devenait insipide au palais. On s'avisait de surcroît que la colère avait cette vertu ô combien précieuse de rapprocher les hommes et de les réunir autant, sinon mieux que la joie. S'indigner, s'enflammer et foutre une raclée plus ou moins meurtrière à des indésirables étaient des actes qui se pratiquaient mieux, plus allègrement et plus férocement lorsqu'on était en meute. Toute l'histoire l'enseignait.
Lydie Salvert, on vient d'entendre la lecture d'une autre page de votre livre, « Tout homme est une nuit ». C'est un éloge de la colère, mais vous, au début de l'émission, vous parliez justement de cette colère nécessaire, nécessaire pour se remettre à écrire, nécessaire pour s'engager dans une vie. Là, il y a une colère, mais une colère qui tourne en rond, parce qu'en fait, il n'y a pas de sortie possible dans ces parties de la France qu'on beaucoup de gens ont décrit, de pardon dans ces films et dans ces photos aussi. Cette France qui autrefois était douce à vivre et qui aujourd'hui est juste oublié du développement, des choses glamour. Or, tous ces gens sont branchés éternellement sur la télévision où on ne voit que ça. Oui. Des gens qui gagnent des millions, des vedettes de cinéma, des vies qui sont devenues tout à fait hors de portée. Et la colère, quand elle tourne en rond, elle devient haine.
Mais bien sûr, la colère qui est impuissante et qui est source du ressentiment. Le ressentiment, c'est l'impuissance. C'est, disait Nietzsche, le sentiment de l'esclave, de celui qui subit. Et c'est une colère qui n'arrive pas à se transformer en acte, en révolte. Le ressentiment ne mène pas à la révolte. Le ressentiment amène à la résignation, mais une résignation amère et triste. Et j'avais effectivement le sentiment que ce qui mouvait ces populations qui votaient pour le Front National était celle justement qui croyait trouver là un exutoire à cette colère, de façon très, très attristante.
En fait, oui, ce livre qui est écrit en pleine campagne électorale, elle décrit très bien cette France, mais elle décrit aussi la France actuelle, la France qui a aussi voté pour Macron en se disant... c'est nouveau, ça va changer. Et du coup, la colère risque de se réveiller à nouveau et de tourner à nouveau en rond, en boucle.
C'est comme s'il y avait, en tout cas, dans ce livre, ces deux Frances. Celle de l'élite que le narrateur incarne bien à son insu. Celle des vernis de la globalisation. Celle de ceux qui s'en tirent. Et puis les autres, les oubliés. Avec peut-être cette troisième France qu'incarne Augustin, j'y reviens.
Voilà, on va y arriver.
Il est une figure de l'espoir, me semble-t-il.
Oui, parce qu'en fait, ce dialogue de sourds entre votre étranger et le cercle des buveurs, il m'a fait penser au face-à-face Macron-Marine Le Pen. Mais on n'appartient pas forcément à l'une ou à l'autre France. Vous les décrivez assez bien quand vous parlez de la jeunesse, parce que il y a deux sortes de jeunesse aussi dans ces petites villes. Il y a ceux de la périphérie qui végètent, qui se tournent souvent vers un islam rêvé pour assouvir aussi leur haine des couffards. Et puis il y a les jeunes macronistes, par exemple, qui eux vont dans la mondialisation, ils ne comprennent absolument pas qu'on puisse leur en vouloir. Et puis au milieu, il y a des êtres plus complexes, dont votre jeune Augustin, qui est le fils du patron du café, et qui avait tout pour être justement mal élevé, et qui est devenu un esprit libre, et qui va remettre les pendules à l'heure dans cet affrontement absurde.
Il va faire du bien. D'abord parce que il est mené par un esprit d'enfance, je ne sais pas le dire autrement.
Lui aussi est un étranger, il est différent.
Mais exactement, il est étranger à sa manière. Et je dis depuis quelques jours là, mais ça je ne l'ai su qu'après, qu'il est pour moi dans la lignée des Michkine, le brave soldat Schweck, tous ces idiots sublimes qui sont bons dans la bonté sans le savoir, qui sont dans la bonté sans que leur bonté soit déclarative, qui sont dans une bonté scandaleuse, bien plus scandaleuse que tous les cynismes du monde, parce qu'elle est exceptionnelle au fond, et qui était pour moi une sorte de troisième voie à laquelle je m'accrochais en écrivant et en me disant, il y a peut-être, il y a sans doute des Augustins, des gens qui veulent un monde ouvert, où le fric ne régit pas tout, où l'autre n'est pas forcément une menace, etc. Voilà pourquoi je me suis en quelque sorte appuyée, accrochée même, on pourrait dire, à la figure d'Augustin.
Oui, parce que dans vos personnages, Augustin va s'engager réellement, il va prendre la parole. Et puis il y a aussi, chez vous, Lydie Salvert, la peinture de ceux qui ne sont pas d'accord, mais qui ne prennent pas la parole. Et ça, c'est peut-être les pires des personnages parmi ceux que vous nous racontez. Celui-ci s'appelle Jacques, il est très sympathique, il n'adhère pas du tout à la haine qui monte, mais il ne dit rien.
Accoudé au comptoir, Jacques restait muet devant son verre de rosé. Il se demandait jusqu'à quand il pourrait supporter d'entendre ses discours qu'il aurait ombrageusement réprouvé s'ils avaient été proférés par n'importe qui d'autre. Il se demandait jusqu'à quand il pourrait les supporter sans qu'ils l'entraînent dans un engrenage odieux dont il aurait honte un jour et auquel il ne pourrait plus échapper. Devant certaines paroles, se taire, il le savait, c'était abdiquer et donner la victoire au pire. Jacques était déchiré et il avait le sentiment que ce déchirement était sans remède. Il connaissait depuis des années les vies de Marcelin et de ses trois compères. Il se sentait en famille avec eux, en amitié. Il ne leur voulait que du bien. Leur généralisation sommaire sur la chose politique l'avait souvent insupporté, mais il trouvait toujours des excuses à leurs égarements, à leurs débordements, à leurs... il ne savait plus quel mot employer, à leurs débridements que l'alcool probablement décuplait. Il essayait d'entrer dans leur raison, il essayait de comprendre de quelle fêlure, de quelle déchirure, de quelle carence incomblée surgissait leur colère qui n'était pour l'instant que verbale et quelle plaie elle venait imparfaitement panser. Il avait le sentiment que leurs tempêtes et leurs foudres excédaient de très loin justement ce qu'on appelle la politique. Qu'elles étaient pures contre-paroles, pure refus, pure protestation contre un ennemi qu'il ne savait identifier. Pure façon de résister à l'ordre régnant qu'ils percevaient comme injuste et dont ils avaient du mal, comme lui, comme tous, à démêler le sens. Il avait le sentiment qu'elles étaient les seuls recours qu'il concevait pour faire un sort à leur angoisse. Mais un recours qui les laissait invariablement à leur misère et à leur impuissance, quand ils ne les empiraient pas.
Lydie Salvert, là aussi, cet homme comprend les raisons de la colère, de cette haine et des actions odieuses que ces hommes vont entreprendre contre l'étranger. Mais il ne dit rien. Est-ce que ça suffit à faire de lui un homme bien?
Il est comme ces intellectuels, mais je peux m'y comprendre, qui devant la complexité des choses ont du mal à prendre un parti tranchant comme le prendrait un leader d'un parti politique, etc. Mais ne rien faire, c'est s'accommoder. Ne rien faire, c'est au fond accepter l'ordre tel qu'il est. Donc, il y a des moments de l'histoire, et c'est un peu ce qui m'est arrivé avant d'écrire, où on se dit, là, il faut. Là, il faut. Il faut y aller, il faut dire, etc. Et Jacques, on le verra dans la suite du livre, à un moment dit non, à un moment dit non. Mais c'est vrai que par une espèce de tentation de toujours comprendre, de toujours analyser, etc., il est quelquefois réduit à l'inaction la plus totale, ce qui laisse les choses telles qu'elles sont.
Alors finalement, votre étranger, on ne va pas raconter la fin du livre, bien sûr. Bon, il ne va pas, on entendait la Nina Simone chanter Strange Fruit, bien sûr, ça il ne va pas terminer accroché à une branche et brûlé. Mais les derniers mots du livre, c'est, je voulais que vous reveniez dessus, parce qu'ils sont ceux-ci. Habiter près d'une frontière, c'est plus commode pour s'enfuir. C'est pas très très non. optimiste. Non. C'est non. un peu une attitude qui consiste à dire si ça continue comme ça, oui. Il faudra partir.
Mais c'est vrai que les temps me semblent sombres, mais qu'il faut dire le sombre, me semble-t-il, si l'on veut en sortir, si l'on se ferme les yeux devant les ténèbres du monde, devant la noirceur du monde, on n'arrivera pas à repenser ce monde, me semble-t-il. Donc oui, c'est une fin à demi-teinte, c'est pas une fin joyeuse, c'est pas une fin noire comme on aurait pu le craindre. C'est une fin qui dit...
Faites attention.
Oui, oui.
Je lisais, avant de vous recevoir, là, un papier qui est paru, que vous avez écrit pour les Inrecuptibles au mois de septembre sur la rentrée littéraire, dans lequel vous disiez que vous vous intéressiez dans cette rentrée littéraire un peu pesante, il faut bien le dire, hein, il n'y a pas beaucoup de chefs-d'œuvre, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous intéressiez à la pensée intempestive, aux livres qui viennent à contre-temps et qui sont décalés. Ce qui veut dire qu'au fond, l'espoir, il est encore là, dans la littérature, dans les livres qui vous prennent brutalement à l'estomac et qui vous obligent à penser autrement.
Ce qui m'agaçait dans cette rentrée de septembre, c'est le suivisme extraordinaire
de la critique.
Je trouvais un suivi auquel aucune dictature ne parviendrait aussi bien, me semble-t-il. Et je me disais, mais il n'est pas possible que sur les 600 livres de la rentrée, tout le monde soit d'accord sur les 20 livres qu'il faut lire absolument. Et je me fâchais contre ce suivisme qui a mille explications, bien sûr.
Et d'ailleurs, vous en proposiez vous-même, vous faisiez votre petite liste, effectivement, de livres différents. Il faut les retrouver. L'invention des corps de Pierre Ducrozet, Défense de Prosper Brouillon d'Éric Chevillard, un vieux, un plus vieux, Asphyxiante culture.
Oui,
de Jean
je crois
Dubuffet.
Que c'est les années 70, et c'est tellement actuel, je trouve, dans ce qu'il dit de la propagande. Dans la culture et de l'emprise qu'elle a sur les esprits et de la difficulté qu'ont les gens à penser aussi par eux-mêmes et affirmer leur goût devant cette propagande.
Eh bien, ça risque pas de nous arriver quand on vous écoute et quand on vous lit, Lydie Salvert. Merci en tout cas d'être venue nous parler de ce livre qui vient de paraître au Seuil, « Tout homme est une nuit ». Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne route, beaucoup de colère encore, parce que ça donne des livres, donc c'est bien, il faut.
Oui, merci.
Merci à vous, Lydie Salvert, au revoir.
Au revoir.
Et c'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons samedi prochain aux environs de 19h20. Je recevrai la pianiste Céline Daudet. Mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Babel sur scène et Madame Julia Foyce. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.